las conferencias de Radio Languedoc. Per festejar la Sant Jordi 2014, lo CIRDOC, Mediateca Occitana a Béziers, desenvolupet la temàtica Llengues e Escritura. Convidèron Michel Bourret de l'Universitat de Perpignan per presentar aquel Sant Jordi, legenda medieval que se'n devenguet Jornada Mundial del Libre. Aquí avès la segunda e darrera partida d'aquel registrament que foguèt realitzat lo 26 d'abril de 2014 al CIRDOC de Béziers.
Du mythe de Saint Jordi à notre Saint Jordi actuel. Alors là, nous avons une première question, c'est la rose. Alors comment en vient-on, passe-t-on de la rose au livre ? Eh bien, parce que la Sant Jordi, ça va devenir une festivité catalane. Et ce n'est pas quelque chose qui vient tardivement. Les Corses de Catalogne se prononcent dès 1456. Donc c'est une fête qui est particulièrement enraciné. Et chose étonnante, c'est qu'au même moment, à la fois, Saint Jordi est institué comme saint patron de la Catalogne et la Saint Jordi devient El Dia dels Enamorats, le jour des amoureux, en fait. Donc, on a quelque chose qui est assez surprenant, parce que nous savons, dans l'histoire de la pensée, notamment de la pensée occidentale, il n'est que de songer à des travaux comme ceux de Bataille, par exemple, ou de Deleuze, ou de Foucault, également que l'État, en général, va lutter contre l'amour, parce que l'amour est une force déstabilisatrice, et donc l'amour ne fait pas de bons citoyens. Eh bien non, la Catalogne fait le contraire. C'est-à-dire que l'amour est institué dès le départ. Alors attention, il s'agit d'un amour extrêmement encadré, d'un amour catholique. Donc on est, dès le XVe siècle, dans l'institution de la Sant Jordi et dans son lien avec l'amour. 1456. Donc on est en fin de Moyen-Âge. Hein. Grosso modo, alors... La fin du Moyen-Âge, est-ce que c'est la chute de Constantinople en 1453, l'invention de l'imprimerie vers 1470 ou la découverte de l'Amérique, l'expulsion des Juifs, etc. de 1492 ? Peu importe, on est dans un Moyen-Âge finissant et on est dans quelque chose qui va se mettre en place et auquel les Catalans vont se lier très précisément, même dans les années de plomb. Alors, ça m'amène à parler un petit peu, j'oublie mes papiers, mais finalement c'est une très très bonne chose d'oublier ces papiers, parce que on s'aperçoit que même dans les deux périodes de plomb, si l'on peut dire, ça va rester un point d'ancrage fondamental. La première période de plomb, c'est celle que l'on célèbre cette année, 2014, c'est le 300e anniversaire de la chute de Barcelone en 1714, c'est-à-dire le triomphe des troupes castillanes et la dynastie des Bourbons. Et la deuxième période noire dont je parlerai sont les années de plomb qui correspondent à la dictature franquiste. Et dans ces deux cas, il va y avoir un enracinement du culte populaire de Sant Jordi. C'est étonnant. C'est particulièrement étonnant et c'est quelque chose qui perdure. Il y a une chose qui étonne les gens, c'est que la Catalogne perd en 1714. L'Espagne fait ce qu'on appelle impose les decretos de Nueva Planta qui vont imposer l'usage du castillan, interdire l'usage du catalan dans l'enseignement, l'Église, le rapport public, etc. Et les Catalans, vaincus, se remettent immédiatement au travail. Le travail, alors dans l'imaginaire castillan, là aussi prenez tout cela avec des pincettes, hein. Dans l'imaginaire castillan, le catalan est travailleur, avare et peureux. Je dédie cette conférence à mon ami, l'écrivain catalan, Jaume Benavente. Jaume Benavente a commencé par écrire en castillan. Il est allé faire son service militaire à Madrid, et là, on l'a considéré comme le peureux de service. Il a tout lâché, et de poète castillan, il est passé à romancier, d'abord à poète, puis romancier catalan. Ce pourquoi, puisqu'il avait été enseigné sous le franquisme, il a dû aller à l'école, Escola Oficial d'Idiomas, apprendre sa propre langue, dont il ne connaissait qu'un usage, dont il n'avait qu'un usage familial, sans base morphosyntaxique, lexicographique. C'était une petite digression, mais en tout cas, cet élément de permanence est important. Alors, c'est assez confus. L'association San Jordi, ça se voit mieux sur le PDF, mais qui sera sur le site. Et j'ai mis deux symboles. Alors, un symbole, ce jeune homme est né en 1974. Il s'agit de Jordi Cruyff. Alors, Jordi Cruyff est le fils du fameux footballeur, capitaine de l'Ajax d'Amsterdam, qui est passé à Barcelone et qui a constitué la révolution footballistique, dont Barcelone tire encore les fruits maintenant, en 1973-74, avec le fameux, je crois que c'était en 73, le fameux 5-0 à Madrid, imaginez, devant le ministre de Gobernación, c'est-à-dire le ministre franquiste de la censure, etc. Ça avait été un premier camouflet. Cruyff ne fait pas comme font actuellement la plupart des footballeurs, des entraîneurs. Il décide de s'installer à Barcelone, de se catalaniser. Il a un fils et il l'appelle Jordi. Jordi, c'est le saint patron de la Catalogne. Beaucoup de Catalans s'appellent Jordi s'ils sont garçons et Montse s'ils sont filles. Montse, c'est la Murenette, la Vierge Noire de Montserrat, l'abbaye de Montserrat. Oh, il y a une petite exception qui me tient à cœur. C'est pour les Catalans qui ont été enfermés dans les camps de concentration, notamment Mauthausen, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui s'étaient fait la promesse, s'ils en réchappaient et s'ils avaient des enfants, d'appeler leur fille Libertat et leur fils Libert. Et j'ai connu quelqu'un qui a une grande importance entre la France et la Catalogne et qui s'appelle Libert et qui est né en 1947. Donc là, c'est peut-être la petite entorse, mais donc c'est déjà un premier symbole. Et là, qui montre aussi la volonté internationale de la Catalogne. On dit souvent d'ailleurs de Barcelone, parce que je parle de la Catalogne et Barcelone, il y a un concept qui est celui de la Catalunya ciutat, la Catalogne ville, parce qu'effectivement, pour la plupart des gens, la Catalogne, c'est Barcelone. Et il y a une formule, qui est une formule anglo-saxonne, qui dit Barcelone, longitude de Paris, latitude de New York. Tout est dit, hein, si vous voulez. Donc, et le deuxième élément, eh bien, c'est le Palau Sant Jordi. C'est un des édifices sportifs construits pour les Jeux Olympiques de 1992. Alors, ça va m'amener à parler, en deuxième partie, de ce Dia del Llibre, parce que justement, si je vous parle des Jeux Olympiques de 1992, ce n'est pas un hasard. Donc la Catalogne se trouve minorée, mise sous le joug en 1714. Elle veut exister et peu à peu va se mettre en place une sorte d'Espagne bicéphale avec la capitale, Madrid. Madrid, il faut savoir, Madrid est une ville très très récente. D'ailleurs, Barcelone est ciudad en espagnol. Madrid est Villa. Madrid n'a pas le privilège de cité. Pour cause, elle n'existait pas. C'était un simple hameau, un village au Moyen-Âge. Elle a été choisie par Philippe II parce que c'est le barycentre des Espagnes. C'est le centre, vous savez, un peu comme en Espagne, à Madrid, chaque Noche Vieja, le 31 décembre, sur les coups de minuit, on mange les 12 graines de raisin à la Puerta del Sol, parce que la Puerta del Sol, c'est le barycentre, si vous voulez. Tous les calculs kilométriques sous Franco se faisaient à partir de la Puerta del Sol. Après, dans la démocratie, chaque communauté autonome a fait... Je n'entre pas dans ces éléments. Pourquoi je vous ai parlé des Jeux Olympiques de 1992? Eh bien, quand la Catalogne a décidé finalement d'échapper un petit peu à cette tutelle, elle l'a fait par la voie internationale. Alors le premier élément, bien, ce sont les expositions universelles. C'est créé à Londres en 1851 et Barcelone rentre là-dedans. Enfin, la bourgeoisie éclairée rentre là-dedans. C'est la fameuse exposition universelle de 1888 dont vous voyez de beaux vestiges avec le parc de la Citadelle et la terrible statue de Colomb dans laquelle de malheureux touristes allemands ont été bloqués au printemps 2013. Et pour les déloger, il a fallu des hélicoptères, tailler les verres, enfin, et happer ces pauvres gens. Avec, vous imaginez, enfin, moi, je suis un vertige terrible, ça serait épouvantable. 1888, 1929, exposition internationale. Alors, la différence entre universelle et internationale, c'est du chipotage, mais bon. 1952, là, on est sous le franquisme, Congresso Eucaristico Internacional. Donc le congrès, en fait, de l'épiscopat, le congrès de l'échelon international. 1955, les Jeux méditerranéens. 1992, les Jeux olympiques. Effectivement, avec un président du comité olympique international, Juan Antonio Samaranch, nous verrons l'importance des gens, hein, qui est en fait un Barcelonais, mais qui essaie de se faire une virginité parce que c'est un phalangiste qui avait été, il a joué un peu surtout, qui avait été ambassadeur d'Espagne en Russie. Donc il va donner les Jeux Olympiques à Barcelone. Et le dernier élément à ce jour, c'est 2004, ça c'est un échec total, le Forum des cultures. Donc la Catalogne essaie de trouver, je dirais, son indépendance, son lustre du côté international. Cet élément est important parce qu'il va nous permettre de comprendre ce qu'est la journée du livre, d'un événement qui va être un événement, je dirais, relativement local, jusqu'à un événement international, universel. C'est une réalité très, très récente. Vous voyez, je vous ai mis la date de 1925. J'aime bien me tromper dans les dates. En fait, la date que j'aurais dû vous mettre, c'est 1926. Mais évidemment, pour que quelque chose se lance en 1926, il faut y avoir pensé avant. Alors, on pourrait aller très, très en arrière et montrer que le livre a toujours été d'une grande importance en Catalogne. Le livre est l'élément fondamental de la Renaissance, c'est le terme catalan, Renaissance, de la Renaissance linguistique, culturelle, mais également entrepreneuriale. Et ça va être, comment dire, lié dès le départ à des prix littéraires. Donc ce jour international du livre, ce jour dans Saint-Jordi, il va falloir le lier à une question qui est celle des prix littéraires. Alors au XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle, ce sont les Jeux Floraux, les Jeux Florals, qui vont remotiver quelque chose qui existait au Moyen-Âge. Donc en fait, par l'artifice de concours qui n'attiraient pas les foudres de l'autorité, c'était de la poésie, eh bien la langue revient. La langue s'enracine. On est quand même dans une société, il faut bien se dire, où le général, par exemple, Espartero, quand il y a des troubles à Barcelone, il prend les canons de marine de Montjuïc, il les tourne. Si vous allez encore à Montjuïc, c'est devenu depuis 3 ans, ça appartient à la mairie de Barcelone, vous verrez qu'il y a encore on peut les tourner. On peut les tourner. Et donc on bombardait la ville. Alors ça tombait ou ça tombait. Hein. Évidemment, il est Barcelonais. Quand il commençait à recevoir les obus, il s'arrêtait. Donc on a cet enracinement dans le 19e siècle. Et en fait, on va avoir une naissance en 1926 de la main d'une personne. Alors c'est très intéressant, vous avez un mouvement, mais c'est une personne qui va déclencher ce mouvement. Alors ce mouvement, mais c'est la personne que vous voyez là. C'est Vicent Clavel Andrés, qui est un Valencien établi à Barcelone et qui a proposé à la chambre, on va dire la chambre de commerce du livre de Barcelone, à l'association, à los gremis de libretes, hein, l'association, la corporation des libraires, de faire une journée. Et alors, c'est très étonnant, cette journée, au départ, n'est pas le 23 avril. Et cependant, on va la lier, en fait, à la naissance de l'écrivain espagnol par excellence, de Miguel de Cervantes. Alors, nous sommes en 1926. Alors, en 1926, c'est très intéressant de voir, je fais un petit peu d'histoire, parce que les débuts, notamment en Catalogne, du XXe siècle sont extrêmement tourmentés. Vous allez avoir une opposition de droite et d'extrême droite. On va arriver à un gouvernement autonome, aux alentours de 1914-1917, la Mancomunitat. Et puis, en Espagne, il va y avoir la prise du pouvoir par un premier ministre militaire, Miguel Primo de Rivera, en 1923. Et il va y avoir l'instauration de ce qu'on appelait en espagnol la dicta blanda, c'est un mauvais jeu de mots avec dictadura. C'est une sorte de dicta molle, si on peut dire, vous voyez. Enfin, molle n'a qu'un sens. Et par exemple, la préparation de l'exposition internationale de 1929 commence en 1917, mais elle va être infléchie par la dictature. Par exemple, si vous allez à Montjuïc, si vous allez en bas, à Binguda de Maria Cristina, là où démarrait il y a peu le marathon de Barcelone, 18 000 candidats, dont la plupart étaient français. Là, vous montez, vous allez avoir la Font Magica, la fontaine magique, qui est une fontaine éclairée, très volée, et vous avez quatre colonnes qui sont le symbole du drapeau catalan. Ces quatre colonnes ont été détruites par Primo de Rivera alors qu'elles étaient édifiées. Et ça a été une des premières choses qui a été, comment dire, reconstruite par l'Espagne, par la Catalogne démocratique. Je crois que c'est dans... Alors, c'est en 1986, donc est-ce qu'on savait déjà? Je ne sais pas. Donc, je préfère ne pas vous le dire, mais en tout cas, c'est un symbole. Et on est quand même dans cette Espagne forte. Donc, cette journée du livre, qui est faite par un libraire de Barcelone, ça va être en fait appelé la fiesta ou el día del libro español. En fait, je regarde les termes exacts. Le roi Alphonse XIII a signé un décret royal, un real decreto, qui s'appelait la fiesta. L'intitulé c'est la fiesta, pas le día, la fiesta del libro español. Alors c'est intéressant de voir. On a pour le gouvernement central un symbole d'unité à partir de la langue. Regardez ce que les Cubains feront. Hein. Je vous ai parlé del día de l'idioma, mais vous imaginez. Et pour les Catalans, ben c'est une façon de mettre en place un système qui fera florès jusqu'à nos jours. Donc voilà cette mise en place, avec une fixation sur le 23 avril qui est assez tardive, assez controversée. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on va voir, ben finalement, tout cela va être fait autour de personnes qui meurent la même année. C'est Shakespeare et Cervantes, donc deux des grands auteurs de l'humanité. Alors, on est donc à la fin des années 20. Et alors, je vous ai donné comme exemple, si vous voulez, bon, je vous ai mis Cervantes et Shakespeare. Et là, je vous ai montré, ça ne se voit pas tellement bien, la Diputación Provincial de Málaga, et qui va justement parler El Día del Libro Español, hein, en fait, là, 7 octobre. 1926. Hein. Là, au départ, c'est en octobre, en fait. Et donc, cette commémoration, et elle se passe dans toute l'Espagne. En fait, on va voir au cours de la Seconde République espagnole, dans les années 30, ça va se centrer sur la Catalogne. Là, nous entrons véritablement dans le cœur du sujet. Alors, je vous ai mis une photo. Non pas de 1932, mais de 1934. La Diada del Llibre, amb la llibreria Verdaguer, un des grands poètes catalans, qui se passe donc sur les Ramblas en 1934, tout marqué en catalan. On vend des livres. C'est évidemment un terrible instrument à la fois de propagande et d'éducation. La Catalogne n'a jamais digéré que l'un de ses humbles, un simple instituteur, Francesc Ferrer y Guardia, ait été fusillé à la fin des événements de la semaine tragique de 1909. Lui, il avait créé une école qui fait penser à une école à la Freinet avant l'heure, si vous voulez, une école d'éducation populaire. Parce qu'il faut savoir que la renaissance du catalan au XIXe siècle est le fait des bourgeois, des possédants. Le peuple parle le catalan, mais c'est un catalan qui ne peut pas apprendre. Donc il va y avoir une sorte d'école ouvrière qui va se mettre en place au début du XXe siècle. Les Catalans ont cela. Et ils vont commencer, je dirais, une éducation. Alors, bien avant la proclamation de la République espagnole, le 14 avril 1931, il faut savoir que l'État catalan est proclamé quelques heures après, puis on revient en arrière, enfin, tout ça, je passe les détails. Mais en fait, la question de la langue est posée depuis plusieurs années. En 1907 est créé l'Institut d'Estudis Catalans, l'Académie de la langue catalane. Le promoteur de la langue catalane, c'est Pompeu Fabra, un ingénieur agronome qui va d'abord être professeur titulaire de chaire de chimie à l'école d'ingénieurs de Bilbao. Et quand il va revenir, avec tout ce qu'il aura fait pour la langue, il sera professeur titulaire de la première chaire de catalan, langue et littérature, à l'Université autonome de Barcelone, qui est créée dans les années 30. On dit Université autonome de Barcelone, c'est UAB, c'est son état. À l'origine, c'est Université autonome de Catalogne, parce que c'est aussi un autre système d'enseignement. Et donc, dans ces années 30, vont fleurir des grammaires, des dictionnaires, mais très nombreux, c'est merveilleux, et à étudier particulièrement. Et donc, El Día del Libre, et les ventes, là, c'est l'occasion, en fait, de mettre à la portée du peuple ces instruments considérable. Vous savez, la première chose qu'on a en général quand on est catalaniste, c'est l'Alcubemoy. C'est un dictionnaire fait par Moussen Alcubé, un prêtre qui allait de village en village, qui prenait sur des fiches des mots, etc. C'est une œuvre en 10 volumes qui est un état de la langue catalane, des Baléares, du pays valencien, qui est encore utilisé de nos jours. Et c'est en général, quand quelqu'un en Catalogne avait la licence d'enseignement qui lui permettait de devenir professeur. Souvent, je pense à un ami d'une famille humble, et bien ses parents lui ont offert les 10 volumes. Et c'est toujours la même maison d'édition à Majorque qui fait cela. Donc le livre, évidemment, c'est lié. On est dans un schéma, si vous voulez, de propagande et d'éducation tout au long de ces années 30. Alors là, on a donc un recentrement sur, on est passé de la fiesta del libro español à El Día del Libre catalan, ou El Día ou la Diada. La Diada, c'est quand c'est une journée, que la Diada, d'ailleurs, sans rien d'autre, c'est le 11 septembre, puisque la Catalogne est avec la Serbie, un des rares pays à avoir pour fête nationale une défaite. En général, on a plutôt des victoires. Eux, ils ont une défaite. Je sais qu'il y a d'autres pays, mais en tout cas, Serbie et Catalogne, ça je sais. Alors, eh bien, je allais trop vite. J'allais oublier une personne fondamentale. Ventura Gassol. Si vous avez l'occasion de lire des poésies de Ventura Gassol, précipitez-vous. Alors, c'est quelqu'un, lettré, c'est un membre de Esquerra Republicana de Catalunya, le parti qui avait été créé par le colonel Francesc Macià, qui avait été, et d'ailleurs Ventura Gassol aussi, exilé en France pour des atteintes à la sûreté de l'État dans les années 20, et qui sera le premier président de la Généralité de Catalogne jusqu'à son décès. Et donc, Ventura Gassol va devenir conseiller de culture. En Catalogne, un conseiller, c'est un ministre. Et là, véritablement, il va faire beaucoup pour la langue, pour la littérature. C'est toujours une très bonne chose de prendre de merveilleux écrivains pour en faire des ministres. Regardez en France avec Malraux. Hein. Donc, si vous voulez, le Malraux catalan, c'était Ventura Gassol. Et évidemment, Ventura Gassol, à la fin, il va faire partie de ces centaines de milliers de gens qui ont passé le Pertus hein, lors de la retirada. Donc, on est, véritablement, j'ai oublié de vous le dire, on est dans l'ancrage de l'éducation et d'une éducation qui est populaire.
Las conferencias de Radio Languedoc.
Alors, nous allons passer aux années de plomb. c'est-à-dire la dictature franquiste, qui commence en fait théoriquement le 1er avril 1939, dans les faits le 26 janvier 1939, quand les troupes franquistes entrent à Barcelone. Là, j'aurais pu en prendre d'autres exemples, j'ai pris la Hoja del Día del Libro, parce que ça me paraissait très symptomatique. Évidemment, qui dit publication mise à disposition du public sous la dictature franquiste, dit forcément Castilla. Mais ce qui est pris comme modèle, c'est una Hoja. En fait, des images d'Épinal. On traduirait ça en français, Hoja par image d'Épinal. C'est-à-dire, on prend un modèle, un patron catalan, et on le met en castillan. Ah, vous voyez ce que c'est, El Día del Libro, Gremios Sindicales de Libreros y Editores de Barcelona. On est en 1956. Alors, j'ai pris ça, pas par hasard, parce que il y a quelques minutes, on me parlait de la venue à Paris de Juan Goytisolo. Et donc, ces années-là se mettent en place, justement, et je pense à Juan Goytisolo, je dirais une rénovation de la poésie, mais surtout de la prose espagnole en castillan et de la prose catalane. C'est en fait la deuxième phase du franquisme qui se met en place, et au sein même d'une nation sous les ténoirs, eh bien, des germes de liberté vont naître. Alors ces germes de liberté, je ne vais pas en parler très très longuement, mais ils sont importants et ils sont alliés à la Sant Jordi. Le premier élément, eh bien, c'est simple, c'est l'abbaye de Montserrat. L'abbaye de Montserrat, qui a un privilège d'extraterritorialité. La police ne peut y entrer. Et dès le départ, les abbés de l'abbaye de Montserrat, les abbés sont des opposants. Ils sont des opposants, ils recueillent les opposants, ils les protègent, mais surtout, leur rotative marche. Et ils fondent une revue d'une extrême qualité, qui existe encore, d'une revue de qualité, qui s'appelle Serra d'Or, donc la montagne dorée, la montagne de Montserrat, et qui va être dans l'Espagne, enfin je ne dis pas la Catalogne, dans l'Espagne franquiste, un poumon de liberté. Alors évidemment, c'est imprimé à Montserrat, le problème c'est après pour être diffusé, mais la diffusion se fait. Et c'est là que le bouillonnement intellectuel se fait, et du point de vue de la création littéraire, il va y avoir toute une influence d'une jeunesse qui est une jeunesse dorée, en général de possédants, souvent qui vont naître dans les courants même du syndicat étudiant universitaire, du syndicat phalangiste, pour mieux s'en distancer, et qui vont être volontiers marxistes. Je vous avais parlé des prix littéraires tout à l'heure, de ces prix littéraires du 19e siècle. À la fin de la guerre civile, l'Espagne est exsangue. Elle est exsangue en hommes, mais elle est exsangue aussi économiquement. Or, les livres, c'est du papier, de l'encre, du carton. Il faut relancer, et on va relancer par les prix littéraires. Ben, ces prix littéraires, ils sont barcelonais. Car en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que sous la dictature franquiste, Barcelone, la cité Oni, va devenir la capitale éditoriale. Alors le premier de ces prix est de 1900. Alors c'est, là aussi, vous parlez de ces dates, 44 ou 45, selon... il est donné au tout début 1945, il est donné le 6 janvier 1945, le jour de l'épiphanie, il est donné à une romancière de 21 ans, Carmen Laforet, Nada, et Nada, c'est un des plus, à mon sens, je suis professeur de littérature, c'est un des plus beaux romans en langue espagnole du XXe siècle. C'est une écriture pure, vraiment, c'est un roman qu'on ne cesse de... En tout cas, comme enseignant, avec Últimas Tardes con Teresa de Juan Marsé, quand j'étais enseignant de littérature espagnole, ce sont mes deux grands succès. C'est-à-dire que les étudiants ont aimé, quand j'ai donné d'autres œuvres qui étaient pourtant de belles œuvres, n'ont pas eu ce succès. Mais Nada et Últimas Tardes con Teresa ont eu du succès. Donc, 1944-45, c'est 1945, mais c'est le prix, il s'appelle 1944, prix Nadal, qui est l'équivalent du Goncourt. 1952, création d'un prix. Alors ça, c'est Maison d'édition Destino à Barcelone. 1952, maison d'édition Planète, c'est le prix Planète. Au début, personne n'en veut, etc. Puis le prix Planète, c'est le prix espagnol, 1952. Et surtout, on arrive à 1959-1960, la maison d'édition Seix Barral crée le prix Biblioteca Breve et le prix Formentor. Je m'arrête un instant. Dans les grands écrivains catalans, alors ça c'est tout un débat, car il y a des écrivains catalans, à mon sens, qui écrivent en castillan. Il y a ce qu'on appelle la Escuela Poética de Barcelona, avec trois grands poètes, que sont Jaime Gil de Biedma, à mon sens le plus grand, Carlos Barral et José Agustín Goytisolo, le frère de Juan Goytisolo. Un petit, encore une digression, c'est mon mal. Pour comprendre la trajectoire des frères Goytisolo, il faut imaginer des fils de la bourgeoisie, avec une maman belle comme le jour. Les enfants sont derrière le carreau. Ils voient maman descendre acheter des cadeaux. Ils attendent des cadeaux. Une bombe explose et leur mère meurt. Une bombe italienne. Vous comprenez après pourquoi toute leur carrière a été marquée. Carrière des frères et carrière du cousin Luis Goytisolo. Donc, je reviens à cela. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Carlos Barral va se marier avec la fille de Víctor Seix. Víctor Seix est un éditeur catalan spécialisé dans les livres de comptabilité. Le livre de comptabilité, c'est pas très sexy, mais ça vend bien, parce que la comptabilité, c'est le plus vieux métier du monde. On m'a dit un jour, mais le plus vieux métier du monde, c'est les prostituées. Je dis non, la prostituée a besoin d'un comptable. Donc, le plus vieux métier du monde, c'est comptable. Et Carlos Barral, qui est un homme qui porte beau et tout, eh bien, hop, pique la maison d'édition à son beau-père et crée Seix Barral. Seix Barral est à la littérature espagnole, je dis bien espagnole, du monde hispanophone, ce que les éditions de minuit sont à la littérature française. Et si je vous parle de ça, c'est pas pour vous parler de littérature catalane ou espagnole, c'est pour vous parler de ce qui, à mon sens, définit la littérature de la deuxième moitié, universelle deuxième moitié du XXe siècle, et dont malheureusement on vient de beaucoup parler dernièrement avec le décès de Gabriel García Márquez, c'est la littérature latino-américaine. Le boom, puisqu'on l'appelle ainsi, le boom latino-américain, est un boom barcelonais. Et j'insiste, barcelonais. C'est Seix Barral qui l'est. Tous ces gens vont à Barcelone. Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Cortázar, tous sont passés par Barcelone. Et il suffit de lire, par exemple, Los Doce Cuentos Peregrinos, Gabriel García Márquez, pour voir toute l'influence que la vie catalane, barcelonaise, cadaqués, etc., peut avoir. Donc, alors, on s'est éloigné en apparence du jour du livre. On ne s'est pas éloigné du tout. Parce que sous le franquisme, Barcelone devient capitale du monde éditorial hispanophone. Quel retournement! Quand on voit que bien des intellectuels catalans et espagnols avaient pris le chemin de l'exil en 1939 et étaient allés éditer où? À la librairie espagnole? En France, c'est le cas de Goytisolo. Étaient allés au Mexique, même Roi Marcé, en 1973, Cid Cacaí. Étaient allés à Buenos Aires, Losada. Il faut savoir que les Espagnols ont connu les poésies de García Lorca par les petits volumes sur un mauvais papier qui passaient clandestinement. Donc, et là, on a donc une espèce de tournemain et Barcelone récupère les marrons et devient la capitale éditoriale de l'Espagne. Et tout cela se passe pendant les années de plomb, ces années de silence. C'est très, très surprenant. D'ailleurs, ça peut paraître étonnant. On aurait pu penser que je n'en parlerais pas des littératures franquistes, et j'aurais consacré l'essentiel du temps. Alors là, nous passons maintenant à la Catalogne de l'autonomie, du statut d'autonomie de 1979, c'est-à-dire là, on est dans l'après-dictature franquiste. Alors, vous savez, on en parle beaucoup en ce moment, notamment à propos de la mort de l'ancien président du gouvernement, premier ministre espagnol, le premier premier ministre de la transition, Adolfo Suárez. Et donc, il y a des mises en question de, comment dire, du coup d'État du 23 février 1981. Ce n'est pas le sujet, je n'en parlerai pas. La seule chose que je dirais, c'est que la transition démocratique, l'Espagne ne devient pas démocrate le 20 novembre 1975, quand le dictateur meurt. D'ailleurs, personnellement, je suis toujours froissé parce que je suis né un 20 novembre. Alors, je dis toujours qu'il est mort le 19 novembre, mais qu'ils ont attendu que le cadavre soit bien froid avant d'ouvrir, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est son beau-fils, qui est professeur de médecine, qui, en fait, veillait sur le corps. Donc, laissons ça de côté. En fait, bon, il y a certes une constitution, qui est l'élément fondamental d'une démocratie votée le 6 décembre 1978, mais ça va tarder. Il faut savoir que, par exemple, le 1er septembre 1976, donc pratiquement un an après la mort de Franco, le roman de Juan Marcé Sidicencaí est saisi après publication et distribution, de façon à mettre sur la paille Sech Barral. C'est des trucs typiques d'une dictature. Grosso modo, on s'accorde à dire que la transition se termine quand il y a véritable alternance, c'est-à-dire quand les socialistes gagnent les élections du 28 octobre 1982. En fait. Donc on est là, on est à l'amorce, si vous voulez, ce qui va en fait de la mort de Franco, 1975, à 1986, qui est à la fois l'entrée de l'Espagne dans ce qu'on appelait autrefois la Communauté économique européenne, et le choix de Barcelone comme siège des futures Olympiades. Et là, la journée du livre va être un événement qui va essaimer dans toute la Catalogne. Chaque ville, chaque village va avoir sa journée du livre. Et ça va être l'occasion de vendre beaucoup plus qu'on ne pourrait vendre dans les librairies. Les libraires sortent et on met en place ce dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, eh bien cette vieille offrande médiévale, c'est-à-dire l'homme offrait à sa bien-aimée une rose. Et il va y avoir cette tradition, alors qu'on pourrait qualifier de sexiste, qui est datée peut-être, c'est-à-dire la dame offre un livre à son compagnon qui lui offre une rose. Toujours est-il que quand on va à Barcelone le 23 avril, on voit énormément de livres, de libraires, et on voit, c'est une désolation, beaucoup de roses qui jonchent le sol. Pour peu que ce soit une 23 avril pluvieuse, il y en a quand même assez souvent, c'est épouvantable, ça broie le cœur. Mais en tout cas, bon, ça c'est un élément qui est assez accessoire. Donc, ce qui avait commencé à se mettre en place dans les années 30, vous voyez que dans les années 80, ça va véritablement éclater. Alors avec en plus, je dirais, des écrivains qui sont des activistes culturels. J'en citerai deux, mais je pourrais en citer des dizaines et dizaines. C'est Montserrat Roig, la romancière journaliste, et c'est Maria Mercè Marçal, la grande poétesse. Là, véritablement, on a des gens qui publient, mais des gens qu'on connaît, parce que ça a été le prof clandestin pour apprendre le catalan. Alors, c'est toi. Et voilà, avec ce tutoiement de la Catalogne, on a l'impression, grosso modo, vous me pardonnerez d'avoir affaire à ce qui se passait à Cuba dans les tout premiers mois après la révolution castriste. Après, je ne me prononce pas sur ce qui est advenu, mais c'est-à-dire cette espèce d'engouement. Et donc on a une journée du livre qui va être à la fois recentrée sur la Catalogne, mais qui va faire tache d'huile dans toute la Catalogne et les pays de langue catalane, c'est-à-dire les îles Baléares, la Franja del Ponent en Aragon et également le pays valencien. Alors pays valencien, communauté valencienne, enfin tout ça, c'est des jeux sur les mots qui ont fait beaucoup de mal aux populations et sur lesquels je ne m'étendrai pas. En même temps, se passe une véritable petite révolution. Et cette révolution, en fait, elle va fleurir en 1995, non pas fleurir comme la révolution des œillets dont nous fêtions le 40e anniversaire avec émotion hier, mais elle va fleurir en 1995. Et le 23 avril 1996, il va y avoir la première journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Alors pourquoi ? Eh bien, il s'est passé avec cette journée ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques. Il s'agit d'une escroquerie. Alors, le mot est fort. Non, je suis d'origine minorquine, et nous allons y aller la semaine prochaine, nous allons revenir à Minorque. Et l'avantage de Minorque, et c'est un avantage extraordinaire, c'est qu'en 1993, elle a été décrétée réserve de la biosphère. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Qui était le directeur général de l'UNESCO ? Federico Mayor Zaragoza, un Aragonais né à Barcelone. Ce qu'il a fait pour l'Espagne, la Catalogne et Baléares, c'est extraordinaire. Il a inscrit au patrimoine de l'humanité des tas de choses, et notamment, il a créé cette journée. Donc là, on a un homme, hein, comme on avait eu pour les Jeux Olympiques, on a un homme. Alors c'est des choses, c'est très étonnant parce que ça ne se dit pas. Est-ce que c'est en vertu de la vieille opposition de frères ennemis entre Catalans et Aragonais ? Je ne sais pas, mais on étouffe cette personnalité considérable de Federico Mayor, qui a été pendant très très longtemps directeur général de l'UNESCO. À mon sens, depuis que l'UNESCO existe, c'est le plus long mandat. Et donc, il a fait que beaucoup. Donc voilà, nous en étions à cela, cette journée mondiale du livre. Si l'on va aujourd'hui, je l'ai fait aujourd'hui ou cette nuit, je ne sais pas, sur la page web de l'UNESCO, on va lire à Journée internationale. L'histoire du mot écrit se confond avec celle de l'humanité. La capacité des livres de contribuer à l'épanouissement personnel et de déclencher des changements sociaux est sans égal, fusionnant ce qui relève de l'intime et un ancrage social profond. Les livres ouvrent des possibilités de dialogue très diversifiées entre les individus, au sein des communautés et entre les époques. Comme l'a déclaré Malala Yousafzai, l'écolière pakistanaise blessée par balle par les talibans pour s'être rendue en classe à la tribune des Nations Unies, saisissons-nous de nos livres et de nos stylos. Ce sont nos armes les plus puissantes. Donc on a véritablement un credo, mais qui est un credo dont vont tirer parti les Catalans. Alors j'avais choisi à la fois le bandeau de la journée mondiale, mais également les Ramblas que nous avions vus en fait en 1934. Là on est au milieu des années 80, je crois que c'est 1985. Et évidemment, non seulement le centre, mais également les périphéries. Francisco Candel, qui est un écrivain catalan, d'origine charnega, c'est-à-dire de la région de Murcie, en fait, un grand, grand, grand écrivain catalan, avait écrit deux ouvrages fondamentaux. Els altres catalans, los otros catalanes, en français, sur ces catalans, et dont on parle beaucoup actuellement, qui sont les Catalans castillanophones. Et puis il avait écrit « Donde la ciudad pierde su nombre », un roman qui montre qu'effectivement il y a cette autre ville dans la ville. Et j'ai eu la chance de faire ma thèse avec, sous la présidence du professeur de géographie Robert Ferras, entre géographie et littérature, et il m'a appris une chose fondamentale, il m'a dit « Le bidonville crée la ville ». Les malheureux arrivent, font un bidonville, et puis après, on va chasser les malheureux et on va faire la ville. Je ne le croyais pas. C'était il y a très longtemps, c'était en 1984. Et depuis, je peux le vérifier, année après année, décennie après décennie. Oui, le bidonville crée la ville. Et là où la ville perd son nom, c'est le laboratoire de la ville de demain. Et nous allons passer au dernier chapitre. En fait, c'est-à-dire la San Jordi actuellement. La San Jordi est dans ce double contexte de la mondialisation et de la revendication du droit à l'indépendance. Effectivement, nous avons des San Jordi partout. Nous avons la chance ici à Béziers, avec 3 jours de retard, et c'est encore mieux, l'année dernière avec 3 jours d'avance, de fêter la San Jordi. La San Jordi est fêtée tout. Alors elle est fêtée dans ce qui est l'équivalent des ambassades catalanes dans le monde entier, les Casals de Catalunya. Elle est fêtée partout, elle est fêtée à l'Institut Cervantes de Paris, elle est et même dans des pays qui n'ont plus aucun rapport. Je vous disais tout à l'heure, décidément j'en aurais parlé 3 fois, à Cuba c'est le Dia del Idioma. Donc c'est le jour de la langue, tout simplement. Pour reprendre le terme de Gabriel Celaya, le grand poète espagnol, là encore des années de plomb. La poesia es un arma cargada de futuro. Hein. La poésie est une arme chargée de futur. En fait, l'écriture, la lettre, est une arme. Mais, c'est une des. Après tout, il suffit de lire ce qu'il y a à la fin de la salle pour comprendre effectivement le pouvoir des mots. Alors, on a ce contexte de mondialisation, véritablement d'éparpillement. On essaime, on fertilise le monde. Alors, j'ai pris trois éléments. El concurs de punts de llibre, Sant Jordi 2014. El punt de llibre és fonamental en català. El punt de llibre, c'est le marque-page. Nous avons tous des marque-pages. Nous nous souvenons que nous avons acheté dans une librairie, dans une ville. Parfois, nous prenons comme marque-page un ticket de café. Les années passent, le ticket jaunit, et on se rend compte qu'on était au Gambrinus de Madrid le 13 décembre 1992. Extraordinaire. Et donc, tout le passé revient. Donc, le punt de llibre, c'est un élément, un passeur, si vous voulez, un passeur de langue, etc. Donc, j'ai pris cela avec ces petits roses. J'ai pris une photo d'une collègue de l'Université de Barcelone qui est une passeuse de romans noirs pour une raison très simple. C'était le 23 avril sur la Rambla de Poblenou, un quartier de Barcelone. La Rambla de Poblenou, elle avait mis son fauteuil, elle attendait déjà, il n'y a pas eu grand monde. Mais les gens sont passés. Là, le Dia del Libre, c'est effectivement ce qui se passe sur l'artère centrale de Barcelone, le Passeig de Gràcia, alors avec les grandes maisons d'édition, mais c'est aussi des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus chaleureuses, avec des amis, d'anciens élèves, des étudiants, je suis professeur à l'Université de Barcelone, et voilà, des choses qui sont importantes. Il s'est passé quelque chose d'un peu nouveau cette année à la Sant Jordi à Barcelone. La première chose, c'est que ça a duré, ça n'a pas marché en fait. On a dit on supprime le ranking, parce qu'il y avait une sorte de lutte qui vendait le plus, en castillan, en catalan, avec... Bon. Et le deuxième élément, alors là par contre qui a marché parfaitement, c'est le boycott de la FNAC de Lille, on appelle à Barcelone, parce que la FNAC a une politique de travail qui est terrible, avec des licenciements abusifs, etc. Et la chose a été portée, je dirais, au public quelques jours avant la Sant Jordi. Donc, les grands écrivains, c'est-à-dire les gens comme Eduardo Mendoza, vous voyez, des écrivains qui vendent beaucoup, ne sont pas allés signer à la FNAC. Il y a eu un boycott de la FNAC. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau par rapport aux années précédentes. Je ne sais pas ce qu'il faut en interpréter, peu importe. Et le dernier élément que je vous ai donné, mais c'est l'Assemblée nationale catalane qui a fait la Semana Catalana, mais la fête au Mexique. Voilà. Et vous avez la Feria del Libro y la Rosa avec l'Université nationale autonome de Mexico. Alors voilà un petit peu ce que je voulais vous donner. C'est évidemment, peut-être au terme de cette présentation, vous trouverez ça un peu brouillon. J'ai voulu vous donner des éléments qui vous permettent de tirer un petit peu, de voir de tel ou tel élément et de montrer qu'en fait... Dès le départ, cet événement qui est maintenant un événement mondial, en fait, fait partie d'une sorte de stratégie du faible qu'ont les Catalans pour arriver à imposer leur vue ou leur pratique. Donc voilà, y acabaré, comme nous avons commencé aquesta serrada, par unas quantas paraules en catalan. Perquè, bé, efectivament, aquí al CIRDOC em sembla important de fer la promoció del llibre, perquè el llibre és una eina, és una arma carregada de futur, però sobretot de passat, i el present es troba entre passat i futur. No es pot viure el present sense el pes i el pes fecund, jo diria, del passat. Moltes gràcies. Je vous remercie pour votre attention.
À causer la seconde et dernière partie de la conférence de Michel Bourret, universitaire de Perpignan, qui présentait la Sant Jordi Legende medievale che s'en devenghet giornata mondiale del libre. Fuguet registrada lo 26 d'abril de 2014 al Sirdoc de Béziers.